Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA 101.7 et 107.5 FM, également sur internet www.rdwa.fr. Et nous allons chanter Mozart avec Jean Delécluse, directeur de Sous Chante Mozart, ce festival. Bonjour à vous.
Bonjour.
Rappelez-nous un petit peu quel est le concept de ce festival. Et c'est une association qui porte ça.
Oui, donc c'est une association qui porte le festival depuis 1989. Donc on fait cette année la 33e édition du festival. C'est un festival qui s'est créé sous l'impulsion de son fondateur Henri Fuoc, qui était maire du village de Sous à l'époque, et qui a perduré ensuite autour de essentiellement du répertoire classique mozartien. Donc toute la musique que le compositeur viennois et autrichien a écrite, donc beaucoup de musique de chant, beaucoup de musique vocale, et puis depuis quelques années, on élargit pas mal, on garde cette identité principale, mais on élargit aussi à tous les répertoires en fonction un petit peu des lieux, des publics au cours du mois. Voilà, c'est un festival qui attire à peu près 5000 personnes chaque année. Et pour la première fois depuis assez longtemps, on va être présent dans le Diwa cette année le dimanche 11 juillet. 10 juillet.
Ah, on va expliquer un peu comment vous déployez justement ce festival. J'allais juste dire, en 33 ans, est-ce que vous n'avez pas joué tout Mozart déjà?
Alors, on aurait bien aimé, mais il faut savoir que le répertoire mozartien est le plus connu, le plus enthousiasmant, je dirais même, et malheureusement le plus cher. Excusez-moi d'être un peu trivial, mais en fait... Mozart est essentiellement connu pour toute sa musique sacrée ou ses grands opéras. Et ce sont des productions qui occupent dans son corpus musical peut-être 75% de la musique qu'il a pu écrire. Mais malheureusement, ça demande des capacités de production,
Ah oui, quand on pense à l'opéra, par exemple, La Reine de la Nuit, qui a été plein de fois filmé, vu et revu, c'est toujours des grosses, grosses productions. C'est de ça dont vous parlez, c'est-à-dire qu'il faut un gros orchestre.
Oui. C'est-à-dire que ça demande des moyens colossaux, puisqu'il y a déjà un orchestre qui va entre 40 et 60 personnes. Ensuite, il y a entre 4, 6, 15 solistes, un chœur, un plateau. Il faut des moyens techniques, il faut des costumes, des décors, etc. Et tout ça, on ne l'a jamais fait, en fait. On l'a fait quelques fois en concert, en version dite de concert, c'est-à-dire sans mise en scène ni costumes. Mais voilà, ça reste quand même compliqué de monter ces œuvres. Donc, pour répondre à votre question, on n'a pas du tout joué tout le répertoire mozartien. On aimerait bien, par contre. Voilà.
Alors, parlez-nous un petit peu du déroulé du festival cette année. Alors, ça commence le 8 juillet.
Alors, on commence depuis quelques années traditionnellement par un grand week-end dit de Sous. En fait, il n'est pas vraiment de Sous puisqu'on va jusqu'à dit, mais qui tourne autour du départ du festival dans le lieu emblématique. Donc, on a des concerts le vendredi, le samedi, le dimanche. En général, pour ce week-end-là, on invite... une dizaine de musiciens qui sont tous des musiciens de chambre de très haut niveau, de réputation, on va dire, internationale, autour de Philippe Bernold, qui est le directeur artistique. Et là, on monte des programmes qu'on répète sur place et qu'on diffuse un peu sur tout le territoire. Donc, à Sous, à Soyans, on va vers Chenis, on va jusqu'à l'abbaye de Valcroissant à Die. Et ce sont toujours un petit peu les mêmes artistes que l'on retrouve. Il y a deux équipes. Et ces équipes, après, même se mélangent. Il y a même... une grande soirée à Sous qui dure 5-6 heures où on a même des surprises musicales en plus. Et puis, on mange sur la place des Cagnards. Il y a 400 repas servis. Enfin, voilà. Donc, c'est un week-end tourné autour de la musique de chambre de Mozart essentiellement, mais pas que, parce qu'il y a aussi de la musique française du XXe siècle. Et puis, il y a même de la musique baroque. Donc, ça, c'est toujours le premier week-end. Puis, à partir de là, on diffuse. On a un deuxième week-end en général dans la Drôme dite provençale. Donc les châteaux de la Drôme, Suse, Grignan, Montélimar, Tolignan cette année. Et puis on a un troisième week-end où c'est un peu un grand mélange finalement. avec Crest, on retourne en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Dieulfi, on va à Valence, on revient un petit peu à Soue. Voilà. Donc on étale sur des week-ends qui font, enfin, à la fin, c'est presque plus des week-ends parce qu'il y en a qui font 5 jours. Mais voilà, ce qu'on a essayé de faire depuis ces dernières années, c'est de faire en sorte qu'un festivalier puisse, en 3-4 jours, voir de 2 à 10 concerts, quoi, s'il en a envie. En s'installant dans un endroit et en retrouvant les gens dans des nouveaux lieux, à des horaires différents, décalés, dans des propositions artistiques différentes.
Et ça fait plusieurs années que vous quittez Sceaux.
Moi, je suis là depuis 4 ans, mais je pense que c'est quasiment dès l'origine, en fait. Dès l'origine du festival, il y a eu une volonté, voilà, de s'épanouir. Enfin, peut-être pas tout de suite, hein, mais je n'ai pas la date exacte. Et ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec des communes, en fait, ou des communautés de communes qui veulent inviter le festival. Et on rentre en relation à l'automne pour voir comment ça va se passer, dans quel lieu, avec quel type de budget, avec quel public, selon quelle envergure, et tout, etc. Et on construit chaque année, en fait, un plan du festival qui diffère d'une année sur l'autre. On peut aller à tel endroit une année, et puis on n'y va pas l'année d'après. Mais on a quand même des fondamentaux, comme les châteaux de la Drôme, évidemment Soue, Crest, Valence, c'est des communes qui sont historiques depuis toujours. Et dans le Diois, ça fait un peu des allers-retours, et cette année, on est super content d'y aller, en fait.
Là, pour le Diwa, c'est la communauté de communes qui vous invite.
Là, non. Non, cette année, on va dans le Diois un peu de notre propre initiative. On est accueilli par l'abbaye de Valcroissant parce que et ça nous voilà, c'est ce qui nous a permis aussi de entre guillemets d'autoproduire dans la mesure où on sait déjà qu'il y a tout un travail par cette association qui est fait sur place et qui nous garantit une bonne diffusion de l'info et voilà une présence du public du territoire à notre concert. Et on n'ira pas dans un lieu totalement où on n'est jamais allé sans avoir un partenaire local assez fort. Par moment, c'est tout simplement une subvention d'une commune, par exemple, qui souhaite nous avoir. Et là, on travaille ensemble pour que. En fait, l'enjeu, c'est quand même que le public du lieu où on se produit ne soit pas uniquement constitué des gens qui connaissent déjà le Festival Saint-Jean-Cosa et qui prennent leur voiture pour traverser la Drôme. C'est dommage. Donc, on essaie vraiment à chaque fois d'avoir des partenaires. À Vercheny, on travaille avec la Fondation Ardouvin. On a plein d'endroits. En Portes-de-Romardèche, on travaille avec les communautés de communes. À Montélimar, on travaille vraiment avec les services de la ville. À Dieulfi aussi. On a d'autres projets d'action culturelle qui sont liés aux concerts aussi sur ces territoires. Ce qui fait
C'est-à-dire?
qu'en fait, c'est plutôt décalé par rapport au festival. Nous, on a un projet avec la ville de Montélimar de politique de la ville. C'est-à-dire on intervient dans les quartiers dits prioritaires. Dans lesquels, avec le conservatoire et l'association des concerts de poche, on a monté une chorale et on les fait travailler toute l'année. Et cette chorale, elle va faire ce qu'on appelle le lever de rideau de notre concert à Montélimar. Elle va introduire le concert avec l'orchestre symphonique de Toulon. Donc, il y a un moment, il y a un échange entre les amateurs et puis les professionnels. On a aussi un projet culture et santé à Dieulfi en collaboration avec la Fondation Partage et Vie. Où là, on a eu des artistes qui sont intervenus dans un foyer médical, un foyer d'accueil médicalisé, dans lequel une artiste est intervenue une dizaine de fois pour faire chanter les résidents. On a fait une restitution ouverte à tous à l'usine de Poitlaval. Voilà, ça, c'est des projets qui ne sont pas directement liés à la programmation du festival, même si on essaie toujours de les mener avec des artistes qui sont eux-mêmes invité en tant qu'artiste au festival. C'est le cas par exemple d'Aurore Boucher qui fait ses ateliers à Dieulfi. On a aussi un partenariat avec la Fondation Ardouvin. Donc là, on travaille avec les jeunes. Enfin, j'imagine que vous connaissez la Fondation Ardouvin sur votre territoire.
Effectivement.
Voilà, ils accueillent des jeunes
En
sous la
rupture.
forme de. Voilà, et ils sont sous la forme de fratrie, c'est leur spécialité, c'est qu'ils conservent les fratries originelles. Donc, on travaille avec ces jeunes dans le cadre d'un passeport. C'est eux qui ont créé ça. Les jeunes ont un passeport à points qui leur permet, en échange de bénévolat dans des projets d'associations du territoire, de gagner des points pour le coup, développer eux, un projet personnel. Ça peut être, par exemple, passer le permis de conduire, passer le BAFA, des choses comme ça, pour gagner en autonomie. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, on a aussi créé une grande chorale cette année. Je crois d'ailleurs, enfin je sais qu'il y a quelques dix, comment dit-on,
Diwa.
quelques dix oies tout simplement, qui en font partie. Donc là, on a recruté 60 personnes de manière spontanée à travers le réseau des écoles de musique et des chorales existantes. Et on les a conviés à travailler des œuvres de Mozart avec Maya Pai, qui est une chef de chœur de Valence. Ils travaillent depuis le mois de mai. Et pareil, ils vont à un moment donné rencontrer l'orchestre symphonique de Toulon et ils vont chanter avec une soprano lyrique qui s'appelle Raquel Camarina, qui est d'origine portugaise. Et ils vont chanter des extraits de pièces sacrées ou d'opéras de Mozart, où il y a à la fois une soprano soliste et un chœur. Et le tout au théâtre de Montélimar le samedi 16 juillet à 20 h.
Tout ça pour
Voilà.
dire que l'association Sous Chante Mozart, en fait, a une activité toute l'année.
Oui, avec l'action culturelle, on est présent toute l'année. Maintenant, il y a aussi des festivals qui développent des saisons d'hiver. Ça existe beaucoup, on n'en est encore pas là. Mais voilà, ce sont des petits objectifs qu'on se donne pour essayer. Alors, développer, ce n'est pas forcément à tout prix, hein, mais c'est de continuer à être en mesure de maintenir cette offre musique classique. On a un positionnement assez particulier, puisqu'on notre mission, c'est d'inviter les grands artistes sur ce territoire. Qui par ailleurs sont très rarement présents. Sur le territoire de la Drôme, il y a quelques entités, mais il n'y a pas de grandes structures qui programment de la musique classique d'envergure internationale, quoi, comme on peut le faire nous sur certains artistes, des Nathalie Dessay, des Astrix Cynarossian, des gens qui sont hyper connus, quoi, Yvan Cassar, Philippe Cassar, des gens comme ça. Alors on le retrouve parfois, de temps en temps, mais nous, voilà, on essaye de faire en sorte que cette génération d'artistes hyper connus accompagne la jeune génération qui vient plutôt du CNSM de Paris ou de Lyon, puisque notre directeur artistique, il est prof là-bas, donc il repère aussi pas mal les jeunes artistes. Donc c'est un peu ces deux pôles qu'on essaye de maintenir. Et donc ça, c'est vrai que ben, si on est en hiver dans la Drôme, c'est compliqué, quoi. On a quand même moins de chances de pouvoir voir ces gens-là, quoi.
C'est vrai qu'il n'y a pas d'offre. Comment vous l'expliquez, Jean Delescluze, que la musique classique soit parfois cantonnée à quelques grands opéras ou grands lieux dans les grandes villes, mais bon, beaucoup moins en zone rurale, évidemment, même à Valence, enfin.
Il y a tellement de sujets qui concernent ça. C'est vrai que pourtant, les grandes institutions, je pense à celles de la région, ont des injonctions de l'Opéra de Lyon, l'Orchestre national de Lyon, tous ces gens-là, ils ont des demandes de la région notamment, et même de l'État, de se produire un peu partout sur leur territoire. Donc, ils arrivent à le faire, mais c'est compliqué. Il faut des lieux d'accueil. La musique classique, ça coûte cher, donc ça coûte cher à produire, ça coûte cher à entendre. Donc, ça, c'est très compliqué à organiser voilà, sur des territoires comme ça, parce qu'on a l'impression que c'est toujours trop cher. Le public a l'impression que c'est toujours trop cher, mais on ne peut pas faire mieux, en fait.
Oui, on en parlait tout à
Voilà,
l'heure. Ouais.
il n'y a pas tellement de structures qui peuvent se permettre d'en programmer, en tout cas à ce niveau-là. Donc après, on a pas mal de petites poches comme ça qui sont souvent maintenues à bout de bras par un artiste qui est du territoire et qui est hyper connu et qui monte son truc, mais c'est vraiment très compliqué pour eux. Et puis voilà, il y a Sous Chante Mozart au milieu de tout ça et qui essaye à la fois de maintenir son niveau et de maintenir les financements, même de les développer pour continuer d'exister. Parce que, voilà, comme je dis souvent, si on était un peu menacé, je vois pas qui d'autre pourrait faire ça sur ce territoire, quoi. Donc voilà. Mais on est bien soutenu, donc on espère bien que ça va continuer.
Et l'association se renouvelle?
Alors oui, c'est aussi un gros enjeu parce que c'est vrai qu'on était dans un modèle associatif de créateurs fondateurs retraités. Donc beaucoup de bénévolat, beaucoup d'implication d'une vingtaine de personnes depuis toujours qui vieillissent et qui voilà, il faut donc aujourd'hui professionnaliser les budgets, c'est-à-dire mettre des salariés à la place des bénévoles. Donc ça, c'est pas une mince affaire quand même, puisque les subventions restent les mêmes. Donc il faut arriver à développer d'autres poches de financement pour essayer de payer des salariés. Voilà. Alors évidemment, on a toujours un conseil d'administration très actif, un président très actif qui fait de la recherche de mécénat, Jacques Labarsouk, un directeur artistique, Philippe Bernold, mais derrière, il faut une équipe. Puis les choses ont changé. Dans la musique classique aujourd'hui, tout est extrêmement. Doit être fait avec précision, dans des réseaux précis. On attend beaucoup de choses de nous sur plein de sujets, que sont la parité, l'environnement, la RSE, enfin tout ça, il faut le prendre à bras le corps parce que sinon, on répond plus à ce qu'est un festival, doit être un festival aujourd'hui en fait. On est en mode années 80, mais c'est terminé en fait. Obligé de passer par beaucoup de démarches, de faire comprendre au plus haut niveau l'importance de ce festival, notre investissement, qu'est-ce que notre travail, on fait beaucoup de pédagogie avec les politiques aussi, faire comprendre qu'aujourd'hui, quand on accueille du public, ça peut plus être... Voilà, il y a vraiment énormément de choses à respecter en matière aussi... financière, fiscale, enfin droit du travail, enfin tout ça n'est plus du tout flou. Donc on est dans des réseaux, dans des fédérations, on nous demande de plus en plus de professionnalisation et ça peut être mené que par une équipe de professionnels, donc de salariés. Donc comment on fait dans la mesure où les subventions ont plutôt tendance à stagner. Voilà.
Mais c'est
Ce
en
qui est
bonne
normal.
voie.
Oui, tout va bien pour l'instant.
Parce que c'est ça, là, ça m'a l'air sombre.
Non,
Jean.
ça va bien, ça va bien. Il faut juste que le public. Alors, le public a beaucoup acheté début juin. Et puis là, on sent une sorte de grand désert. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se réveiller en dernière minute. C'est d'ailleurs ce qu'ont constaté tous les festivals jusque-là, que les habitudes du public vont changer. Donc, ça nous stresse un peu plus, mais au final, on va faire le carton plein, j'en suis certain. Mais voilà.
Alors, on rentre un peu dans le détail de la programmation. Peut-être vous nous avez déjà dé délivré quelques noms, mais qui on va voir, qu'est-ce qu'on va entendre, autre que Mozart en plus, puisque vous nous le disiez.
Les grands artistes du festival, je voudrais vexer personne, mais il y a des gens très connus. Bon, il y a Philippe Bernold, on a des chanteuses exceptionnelles. On a Nathalie Dessay qui vient dans un répertoire de jazz qu'elle pratique depuis quelques années avec Yvan Cassar. Tout le monde le connaît en fait. C'est un chef d'orchestre et un pianiste qui fait beaucoup de télé, qui a les cheveux longs, blancs. Quand on dit ça en général, tout le monde dit ah oui, bien sûr. Bon, on a la grande Anne Kefelek, pianiste. Sandrine Piau, une autre soprano lyrique exceptionnelle. Là, je vous parle des gens extrêmement connus. Philippe Cassard, bien sûr. Astrid Cynaroussian, qui est de Valence et qui fait aujourd'hui une grande, grande carrière. Cette année, la programmation, elle est consacrée aux claviers. On fait un focus sur les claviers. Donc, les claviers, c'est le piano forte, dans l'ordre, le piano, le clavecin et puis aussi l'accordéon. Donc, on va aussi avoir Vincent Perani, par exemple, avec François Salk à la Tour de Craie. Donc là, on sort de Mozart totalement. On a deux concerts d'orchestre avec l'Orchestre symphonique de l'Opéra de Toulon, dont un qui va être un concert expliqué, un peu comme le fait Jean-François Zigel, par Philippe Bernold, qui va un peu décortiquer à Tolignan ce qu'est une symphonie, comment ça marche, quelles sont les règles pour obtenir le titre de symphonie. L'Abbaye de Valcroissant, alors là, c'est un concert 100% Mozart. Avec Philippe Cassard au piano, Sayaka Soji, qui est une violoniste exceptionnelle, Lise Berthaud à l'alto et Astrid Cyranocian au violoncelle. Après, on sort parfois totalement de Mozart, on va dans la musique du XXe siècle, la musique française, par exemple Poulenc, Avershenny, on peut avoir du Schubert, on peut être dans la période classique. On a donc François Salk. Le violoncelliste qui se produit avec Vincent Perani à la Tour de Craie, et puis la veille avec Jean-François Esser au piano dans un concert de musique romantique. On a un récital de clavecin à la chapelle de Compts. Bon, là, c'est trop tard, c'est plein. Il y a quand même pas mal de concerts qui sont déjà pleins. Et puis à Diolfi, on a une intégrale des 18 sonates de Mozart par quatre pianistes qui prennent le relais de 18h30 à 22h30.
Un
On arrive de
marathon,
Diolfi.
quoi.
Voilà, c'est ça. Il y a un très jeune et trois artistes confirmés déjà. Et puis on finit à Valence avec une œuvre classique de l'époque de Mozart, mais de Haydn, les sept paroles du Christ en croix, qui est une œuvre religieuse qui sera donnée par la Chapelle Rhénane, qui est un ensemble baroque assez connu alsacien. Concernant les très jeunes, on a une très belle journée en partenariat avec la Porte de Dromardèche, à Claveyson et au Prieuré de Mantes, avec quatre jeunes. On a deux victoires de la musique de mémoire. Donc, au violon, Manon Galli, on a un pianiste, Jorge González. Et puis un percussionniste assez incroyable, c'est lui le buteur de la musique, Aurélien Gignoux. Et Charles Esser au piano, ils vont faire du jazz en plein air. Esquèche, quand même, le grand organiste et compositeur français, qui va improviser à la collégiale de Grignan à partir de Mozart. Ça va être assez sympa, parce que c'est un homme qui improvise de manière exceptionnelle. Je l'ai moi-même beaucoup entendu accompagnant des grands films noir et blanc d'époque à l'Auditorium de Lyon. C'est très impressionnant. Et puis Anne Kefelec, la pianiste dans la cour de Grignan, qui va faire du Mozart et du Mendelssohn avec le Quatuor Sophos, ça va être aussi quelque chose de sans doute d'exceptionnel.
Une programmation très dense qu'on peut évidemment retrouver sur un site internet.
www.souschantemozart.com. On a une billetterie en ligne qui marche très bien et qui est facile. On a un téléphone au 04 75 41 00 18 qui répond à certaines heures, à des heures normales, on va dire, au public. On a des concerts complets et on en a d'autres où il y a encore pas mal de place.
Et tout ça, c'est facile sur le site de savoir lesquels sont libres, hein.
On a des tarifs enfants pour la première fois cette année. Donc, je les recommande. On a bien sûr un tarif jeune, moins 28 ans, et qui s'accompagne aussi d'aider les personnes en difficulté. Ça va de 7,50 € à 15 €. Donc, finalement, c'est moins cher que quoi? Bah, qu'une place de cinéma, tout aussi cher, pas plus. Je tiens à le dire. Voilà. Quoi d'autre? Bah oui, après, on a des tarifs à 35 €. Mais voilà, c'est des tarifs qui sont pratiqués partout. On peut pas faire mieux, mais on essaie déjà de faire beaucoup d'efforts avec nos subventionnements. Mais c'est très compliqué. Un festival dépend de sa billetterie, quel qu'il soit, que ce soit celui d'Aix-en-Provence, celui de la Roque d'Anthéron ou celui des Vieilles Charrues, à hauteur minimum de 35 à 40 %. Donc s'il n'y a pas de billetterie, il n'y a pas de festival. Donc c'est très très compliqué de trouver une belle équation pour que les gens puissent quand même venir. Alors on fait des tarifs, on a des abonnements, on a des offres, on a une adhésion à notre association qui ensuite permet d'avoir des tarifs réduits. Voilà, on essaie de tout, de faire en sorte de pouvoir ne pas trop bloquer les gens.
Et sous Chante Mozart, c'est donc du 8 juillet au 24 juillet cette année. Jean Delécluze, merci à vous.
Ben, je vous en prie, merci beaucoup. Et puis, j'espère que, enfin, c'est en bonne voie que le concert de l'abbaye de Valcroissant sera rempli
Pardon, parce qu'il y a eu un. Il y a eu un.
de Diwa et Diwaz, je disais.
Merci. Bah, je vous le souhaite. Peut-être on peut se quitter avec un morceau de musique. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on écoute?
Ah, la question piège. Alors, essayez de trouver le Laudate Dominum des Vêpres. Les vêpres pour un confesseur de Mozart et l'extrait avec soprano solo et chœur, une version baroque.
Merci
Voilà.
encore et belle journée.
Bonne journée.